Nous accueillons cet après-midi un groupe de jeunes paroissiens de la paroisse de La Sala. On ne connaît jamais très bien ses plus proches voisins. Ils sont accompagnés par leur pasteur animateur Serge Fornereau. Ces jeunes ont effectué un séjour en RDA. Et si on devait donner un second titre à cette émission, je crois qu'on l'appellerait « Démolir le mur ». De l'intérieur. Après la Deuxième Guerre mondiale, les églises des deux côtés ont invité les gens à se rencontrer, les jeunes plus particulièrement, pour que les ponts ne se rompent pas. Et c'est un peu à l'instar de ces initiatives que ces jeunes paroissiens de La Sala sont allés en RDA. C'était la première fois que la Suisse déléguait ces jeunes là-bas, alors que depuis des années, France, RFA, Angleterre, Hollande y envoyaient les leurs. Échelle aujourd'hui avec filles et garçons d'un groupe de jeunes de la paroisse de La Sala. Et une introduction peut-être avec Serge Fornereau qui est le pasteur, qui est l'animateur de ce groupe de la paroisse de La Sala. Au-dessus de La Sala, de la radio, vous êtes nos plus proches voisins finalement, on ne se connaissait pas.
Et non.
Voilà. Vous revenez de RDA, donc République démocratique allemande, de l'Est, de l'autre côté du mur. Alors tout d'abord, une introduction, Serge Fornereau. Pourquoi ce camp? Vous étiez invité? Ce sont des camps qui existent?
Ces camps sont organisés dans le cadre des églises protestantes de là-bas pour faire se rencontrer des jeunes de toute l'Europe.
Mmh. Et pas de difficulté d'inviter à l'Est des gens de l'Ouest?
Aucune difficulté. On a des visas officiels, donc on ne paye non plus pas le change obligatoire. Et c'est des camps qui ont lieu pendant l'été, pendant 15 jours environ, où des jeunes d'Allemagne de l'Est, d'autres pays socialistes et d'Europe de l'Ouest sont là pour travailler, à rénover, à travailler au champ ou à retaper des maisons. L'objectif étant de les faire se rencontrer et par là de détruire un peu les préjugés, les images qu'on se fait les uns des autres.
Détruire le mur de l'intérieur.
C'est ça.
Oui. Et vous y arrivez de temps en temps?
Alors les débuts ne sont pas toujours simples. D'une part à cause de la langue, d'autre part parce qu'on ne sait pas très bien à qui on a affaire, mais l'expérience... Parce qu'il y a des tas de choses qui se passent pendant deux semaines ensemble. Et des amitiés se créent. Alors, à partir de là, quand on entend à la radio, dans la presse, RDA, on pense plus la même chose.
Alors, on va voir ce que les jeunes en disent tout à l'heure, mais j'aimerais encore quelques précisions. Qui invite ? C'est les églises de l'Est qui invitent.
C'est le département œcuménique, donc de la jeunesse des églises protestantes d'Allemagne de l'Est qui invite. C'est un organisme international qui dépend du COE à Genève. Du COE, du comité œcuménique des
du
églises.
Du comité œcuménique
des églises.
Des églises, voilà, le COE.
Qui ont des succursales dans tous les pays.
Il n'y a pas de méfiance. On invite facilement les jeunes de l'Ouest à venir?
Ah oui. Depuis la fin de la guerre, les églises des deux côtés du rideau ont essayé de travailler le plus rapidement possible à faire se rapprocher les peuples. Les gens d'église, évidemment, en priorité, mais par-delà aussi les autres gens, pour pas que les ponts se rompent et pour donner petit à petit une autre sorte d'information sur ces pays. Enfin, pendant longtemps, il n'y avait pas d'image ou alors une image très rigide, très stalinienne. Et les églises ont essayé, avec leurs pauvres, avec leurs moyens propres, de contribuer à instaurer une autre image de ces gens.
Et ça ne devait pas être facile dans les années 50.
Pas du tout, non.
Ça devait vraiment être crispé.
C'est un service qui a démarré, qui a décollé depuis 20-25 ans, mais auparavant, c'était très, très modeste et très souterrain.
Et les jeunes qui partaient, il fallait une puissante motivation ou une grande curiosité pour, dans ces conditions, avoir envie de faire ce que personne ne faisait.
Tout à fait. Les premiers pays qui ont été intéressés à ça ont été les pays touchés par la guerre. La France, l'Allemagne fédérale, l'Angleterre, la Hollande. C'est à ma connaissance la première fois que des Suisses romands participent à un camp comme ça.
Cette année. On est vraiment toujours les derniers.
Oui, on n'a pas de relation, la formation n'est pas connue, de la possibilité de ces camps.
Oui, et bien décidément, la Suisse n'est pas en première ligne.
Pas vraiment.
Je suis d'autant plus fière de vous accueillir ici et curieuse de vous entendre tout à l'heure démolir un peu ce mur. J'aimerais vous entendre, je suis très 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 intéressée de vous entendre. Vous n'étiez jamais allée à l'Est ?
Jamais.
Jamais.
Moi non plus, jamais.
Non plus.
Alors moi si j'y suis allée, j'ai été pendant simplement une journée lors d'un voyage de quelques jours à Berlin avec ma classe. On a eu droit à toutes les files pour passer à l'Est. Pour ce qui est de mon voyage là-bas, on était divisé en deux groupes. Un faisait partie d'un camp à Kleinkreuz, un tout petit village, mais moi je n'y étais pas. J'étais à Stendal, une ville de 50 000 habitants.
Et situé à peu près où
Entre la frontière avec l'Ouest et Berlin, la capitale.
Voilà. Donc il y avait deux camps, vous êtes ici, de deux camps différents. Et Kleinkreuz, ça se situe où?
Alors Kleinkreuz, c'est un petit peu en dessous de Berlin, c'est près de Potsdam, pas loin de Potsdam.
Très bien. Et on va reprendre tout au départ. Hein. Votre motivation pour aller là-bas, parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça, donc quelle était votre motivation quand on vous a proposé le projet?
C'était l'occasion de partir à l'Est un peu différemment, de ne pas y aller en touriste, mais de faire un camp avec des gens. Moi, j'ai fait beaucoup de camps en Suisse et en France, mais là, de faire un camp à l'Est, donc de rencontrer des jeunes, puis de voir la vie là-bas en travaillant et en pouvant discuter avec des gens.
Vous pratiquez tous assez bien l'allemand, vous êtes tous de niveau gymnasial ou presque?
Au début, il fallait faire une sélection. Et puis c'est clair qu'il y en a qui n'ont pas pu venir à cause de ça.
Oui.
Mais sur place, c'est vrai que c'est difficile. Je sais pas, avec mon allemand, j'ai quand même eu des problèmes pour tout comprendre. Je veux dire, dès qu'on a des discussions de fond, c'est vraiment difficile. Ouais. Mmh. Autrement, je veux dire, comme ça, on peut toujours se débrouiller. En s'adressant à quelqu'un, je veux dire, à part comme ça, on arrive à avoir une discussion normale, je veux dire.
Et en Allemagne de l'Est, les jeunes de votre âge ont une connaissance du français ou pas du tout?
Alors, pas du tout. Alors là-bas, ce qui s'apprend, c'est surtout le russe, hein, comme deuxième langue. Mmh. Ici, je sais pas, on apprend l'allemand comme deuxième langue en tant que Suisse romand. Mais là-bas, alors, c'est le russe et puis le français, ils connaissent pratiquement pas.
L'anglais?
L'anglais, non. Pratiquement
donc la difficulté
pas non
déjà au niveau de la langue. Hein.
Ouais.
Isabelle, toi, tu étais avec Brigitte, alors, à Stendal. Vous étiez combien de Suisses dans ce camp?
On était trois dans ce camp sur 21 participants.
Et les autres étaient d'autres nations européennes?
Oui, il y avait une Danoise, il y avait même un Mozambicain qui étudiait en Allemagne de l'Est.
Très mélangé, sympa.
Une de l'Allemagne de l'Ouest, autrement deux Tchèques, un Polonais et le reste d'Allemagne de l'Est.
On se dit que si les jeunes avaient le droit de vote, l'Europe se ferait très vite, autrement dit. On n'est peut-être pas les mêmes réticences que les Suisses de notre âge ou d'un âge encore plus avancé.
Je pense que ça dépend des jeunes.
Oui. Ah bon, vraiment?
Oui.
Les jeunes ouverts, il n'y en a pas beaucoup?
Ben, je pense que ça ne se rencontre pas aussi facilement que ça.
Alain, tu faisais partie du camp de Kleinkreuz, vous étiez combien en tout?
Alors au niveau du camp de Kleinkreuz, on était 15 personnes.
Oui.
4 nationalités. Il y avait deux personnes de Hongrie, non, de Bulgarie. Roumanie, Bulgarie.
Ah oui, là,
rendez-toi.
Les mélanges.
Il y avait deux personnes de Bulgarie, une personne de Hollande, nous étions 4 Suisses, et le reste des participants étaient de DDR.
Et le contact s'est effectué le plus facilement avec quelle nationalité?
Alors pour ma part, je recherchais plutôt le contact au niveau des personnes de RDA.
RDA.
Je crois que j'allais en RDA pour rencontrer des gens de RDA. Mmh. J'ai eu d'excellents contacts avec tout le monde, mais j'ai plus particulièrement poussé ces contacts-là.
Et le genre de conversation que vous aviez tout en travaillant ou en vivant ensemble, c'était quoi? Vous essayiez de pousser un peu ou vous étiez choqué par ce que vous voyiez ou en tout cas dérangé?
Non, alors pas du tout. J'ai eu l'impression de vivre un camp comme j'en aurais vécu en Suisse. Une première impression, c'est peut-être qu'on a l'impression d'être dans un pays qui a 30 ans de retard, au niveau de ce qu'on voit, au niveau des voitures, au niveau des bâtiments. Sinon, un excellent contact, l'impression que c'était des gens que j'aurais pu rencontrer en Suisse, des jeunes que j'aurais pu rencontrer en Europe de l'Ouest, et des discussions qui allaient très vite assez loin. J'ai l'impression que c'était des personnes très critiques sur leur pays, mais aussi bien sur l'Est que sur l'Ouest. J'avais l'impression de pouvoir aller très vite au fond des choses, d'avoir des discussions à la limite philosophique dans certains cas.
C'est toujours embêtant, hein, de ne pas être de la même langue quand on discute
alors,
à ce niveau-là.
Ah,
ça, c'est terrible.
C'est clair que c'est limitant, c'est
incroyable. Oui. Ça se ressent-elle plus parce qu'on avait plein de choses à dire.
Vive une langue internationale, vraiment, il faut que ça vienne. Hein.
Ça,
qu'on puisse se comprendre,
très
tout en gardant la sienne, mais qu'on puisse se comprendre. Et vous sortiez du camp pour aller un peu dans la nature ou dans la ville? Vous étiez libre de mouvement?
On travaillait donc depuis 7h le matin jusqu'à midi.
Mais des forçats?
Ah oui, oui.
Pour les vacances?
Non. Pas des forçats, c'était même très agréable de faire un peu de travail physique. Hein, quand on est tout le temps en train de réfléchir sur un bon, ça fait plaisir de se dépenser un peu. De 7h à midi, on travaillait. Et puis l'après-midi, à partir de 2h, on était libre jusqu'à 7h. Et là, on pouvait donc visiter la ville de Brandenburg qui se trouvait pas loin. Et puis, on profitait de l'après-midi pour se reposer, pour se balader.
Et alors les gens, vous regardez comme des étrangers? Vous vous sentiez étranger?
Non, pas du tout.
Non.
Quand on se balade comme ça à vélo, je veux dire, on est vraiment fondu dans la population. Mmh. Et puis, on n'est pas étranger.
Les vêtements?
Peut-être par les vêtements. C'est clair que ça se remarque de temps en temps, mais je ne crois pas qu'on faisait tâche. On n'était pas isolés.
Et quelques-uns d'entre eux avaient des habits de l'Ouest. Ils se font envoyer des habits par de la famille, donc
ils
étaient
beaucoup,
à la mode comme nous. Oui. Quoi.
Parce que pour eux, la mode, ça vient de l'Ouest, hein, forcément.
Bah, un peu, parce que au niveau du choix dans les magasins, là, c'est pas encore à la mode. Et puis quand il y a un truc qui est un peu fluo ou je sais pas quoi, c'est le même article pour tout le monde et tout le monde se retrouve avec le même.
Oui.
Alors l'uniformité, c'est pas ça non plus. Quoi.
Oui. Vous savez quoi envoyer à Noël?
Ah, ouais, tout à fait.
Ça marche avec les douanes, c'est possible?
Ben, je pense, ils contrôlent aussi, hein. Il paraît qu'ils ouvrent les paquets, puis de temps en temps, ils regardent, mais pas tout le temps, il y a toute une période de temps en temps.
Je sais pas que c'est pas comme en Amérique du Sud, ils reçoivent des boîtes de chocolat, puis alors ils en mangent la moitié, puis ils envoient le restant de la boîte. Alors, où j'étais surprise, c'est qu'ils font suivre le restant de la boîte.
Ah, ça, c'est gonflé.
Non, mais c'est merveilleux. Au moins, ils reçoivent la moitié, on dit que, puis on fait plaisir à deux personnes en même temps.
Voilà.
Vous étiez partie avec des choses à offrir, ou vous avez pris quelques présents avec vous, sachant qui manque de beaucoup de choses?
Non, pratiquement rien. Simplement par le fait que on ne sait pas ce qui manque.
Vous ne saviez pas. Oui.
Ça n'était même pas nécessairement évident qu'il manque quelque chose. La consigne était plutôt la consigne de Serge était plutôt d'offrir quelque chose qu'on aurait envie d'offrir. Sans
penser au manquement.
Sans penser au manque ou à n'importe quoi, parce qu'il semble qu'on peut trouver à peu près tout.
Puis je pense qu'on ne voulait pas non plus tomber dans le piège de dire ils ont besoin de points, et puis en arrivant là-bas, de se rendre compte que c'était d'autres choses qu'ils avaient envie.
Vous n'avez rien pris?
Non, on n'a rien pris, je crois.
Nous, avec Alain, on a apporté les chants de Thésée, parce qu'on avait passé le week-end avant à Thésée, et puis on trouvait ça intéressant, surtout qu'on pouvait tous les chanter ensemble. Il y a des chants dans toutes les langues. C'est dans toutes les langues, les chants de Thésée, latin, allemand, français, anglais. Donc c'était un avantage.
Les jeunes que vous avez rencontrés sont des jeunes qui font également partie de groupes religieux, donc de paroisses, ou qui ont un engagement religieux.
Ah oui, de toute manière. Presque tous avaient plus ou moins un rapport avec l'Église. Dans notre cas, il y avait plusieurs personnes qui voulaient faire des... ou avaient commencé, ou allaient commencer des études de théologie. Serge était pasteur, ça fait que pour finir, on était en tournée là autour. Mais un garçon d'Allemagne de l'Est, qui s'appelle Andreas, c'est plus simple d'appeler par son prénom, avait une espèce de position, une façon d'être que je trouve intéressante, parce que le boulot qu'il faisait, il s'occupait de punk et de gens marginaux, Ils pouvaient le faire que dans le cadre de l'Église, parce que l'État n'offrait pas du tout cette possibilité. Mais en même temps, il était tout le temps en train de critiquer l'Église, de tourner en ridicule ou de voir les défauts, parce que c'est comme une sorte de... Ouais, c'est une institution, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Mais en même temps, son boulot dont il était tellement fier, qu'il voulait toujours nous proposer, nous le présenter un soir, ben, il pouvait le faire que dans le cadre de l'Église.
Toi, Isabelle, tu as commencé la théologie, tu as 20 ans. Tu es toujours décidée?
Oui, je suis toujours décidée. Bon, ça fait déjà un certain temps.
Ce sont nombreuses des filles à choisir la théologie.
J'en connais. Bon, je suis dans un milieu chrétien, donc j'en connais plus, mais j'en connais bien quelques-unes, oui.
Et vous le faites dans quel but? Vous allez arriver à quoi avec
votre licence? Bon, je pense que je veux devenir pasteur, mais tu à partir de là, j'ai envie d'aller travailler dans le tiers-monde.
Voilà. Pasteur et direction tiers-monde.
Voilà.
La Suisse, ça t'inspire pas?
Non, ça m'inspire pas du tout.
C'est très à la mode. Hein. C'est le nouveau look des jeunes, c'est d'aller donner un coup de main dans le tiers-monde. En Suisse, il y a à faire, mais ils choisissent le tiers-monde. Parce qu'il y a le voyage en plus. Non, mais je voudrais qu'on m'explique, là, je vous provoque un peu.
Oui, c'est vrai que... Bon, la Suisse, je sais bien qu'il y a des tas de choses à faire, puis qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Mais je me sens plus attirée par l'étranger et je pense que je ferai du meilleur travail dans un endroit où je me sens mieux.
On nous donne tellement une image, je ne sais pas, un peu arriérée dans les autres pays. Je ne sais pas, moi, ça me fait vibrer quelque chose quand j'entends parler de l'Afrique ou des pays du tiers-monde. Je ne sais pas, il y a ma corde humanitaire qui vibre.
Et puis c'était Samaritain.
Presque, voilà.
Bon, Samaritain.
Non, c'est vrai que ça me donne envie de partir, quoi. Quand je vois les informations comme ça, c'est vrai que quand on se retrouve, je sais pas, en Afrique, comme ça, la vie est beaucoup plus simple, le contact, c'est plus direct, c'est plus chaleureux. C'est clair que ça a un côté attirant. Ici, on se balade dans la rue, personne se connaît.
C'est rigide.
C'est vraiment rigide, c'est froid, c'est glacial. Tandis que l'image qu'on a de ces pays, c'est vraiment la chaleur, le contact direct. Vraiment, je sais pas, aussi l'Asie, tout ça, c'est les hindous, les moines, tout ça, c'est très attirant.
Et ensuite, vous allez revenir et vous essayez de modifier le climat helvétique qui va faire qu'un jour, tout le monde se précipitera ici parce que ce sera le pays cool.
Ce serait tellement génial.
On remarque qu'il y a du travail. Hein. Mais ça vaut la peine d'essayer, je trouve.
C'est sûr.
Alain, tu as aussi des envies de départ ou il n'y en a pas un ou deux qui vont rester sur place?
Alors moi, je pense à terme rester sur place. J'ai envie d'aller voir ailleurs. Je suis déjà allé voir ailleurs. J'ai envie de retourner à RDA. Je crois que j'ai envie de me battre ici pour que les choses changent.
Marc, je vous dis ça, mais je crois qu'il faut partir pour bien revenir. Hein. C'est nécessaire. Il faut en tout cas sortir, c'est sûr. Hein. On fait un meilleur Suisse, je crois, en rentrant. Ça aide beaucoup d'aller voir ailleurs.
Puis on apprécie beaucoup mieux ce qu'on pense qui nous est dû. C'est-à-dire que si on ouvre un robinet, qu'il y a de l'eau qui descend du robinet, qu'on peut la boire et tout ça, eh bien, pour un Suisse, entre guillemets, normal, ça paraît logique. Mais quand on a été voir ailleurs et qu'on a vu que ce n'était pas le cas, eh bien après, en rentrant, on profite beaucoup mieux de tous ces avantages.
Si on avait puisé l'eau avec
un seau,
une petite amphore ou un seau, je crois qu'on ne la laisse plus couler comme ça pour rien. Et c'est vrai. Ça, la planète est petite, il faut en faire le tour avant de rentrer. Hein. Non, c'est vrai, il faut sortir, ça c'est sûr. Mais je trouve intéressant que des gens reviennent pour faire quelque chose ici, parce que la Suisse, ça sera bientôt le tiers-monde si tout le monde fout le camp.
Bon, il ne faut pas oublier non plus que c'est une vie beaucoup plus difficile que celle qu'on a ici et qu'on voit des choses très dures. Des enfants qui se font battre, des mendiants dans la rue qui dorment par terre, des gens qui font 4 repas par jour... Il ne faut pas idéaliser non plus. Il faut se battre autant là-bas qu'ici, je pense.
Mais en même temps, dans des pays où la vie est plus dure, nous y réapprenons des choses que nous aimerions voir ici. Rapportez ça pour qu'on les retrouve ici.
Ouais.
C'est-à-dire une chaleur, une simplification dans les rapports, un peu plus de naturel, de parler vrai, tout ça qui pourrait faire que le climat en Suisse serait merveilleux si les gens se décontractaient un tout petit peu.
Ouais, hein?
La décontraction, c'est pas forcément le chenille, comme disent les Vaudois. Ça peut être quand même l'ordre et la discipline, mais dans la décontraction, et sourire, non? Non?
Oui, oui.
Il me semble que quand ils rentrent, ils doivent plus pouvoir devenir complètement helvétiques. Alors, il y a un espoir.
C'est vrai qu'on se réhabitue très vite au luxe et au confort. C'est un peu le danger. Déjà, de le savoir, c'est bien. Mais après, il faut voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça, c'est déjà beaucoup plus dur.
Dans le domaine de la construction, par exemple. Lorsqu'on rentre de certains pays où on voit que les gens bâtissent leurs maisons de manière fort simple, mais même en Amérique. Et on se dit qu'ici, bon, il y a un phénomène ici qu'on ne peut pas changer, c'est le manque de place. Mais des maisons bon marché, presque tout le monde pourrait avoir une maison agréable, mais ça ne serait pas du gros béton dur qui dure 300 ans. Ça serait quelque chose qui dure 25 ans, puis qu'il faut vraiment entretenir, quoi, tous les 3-4 ans, coup de peinture, remplacer les bois qui pourrissent, etc. Mais une autre manière d'habiter, hein? On prend l'architecture qui vient d'Amérique, mais on ne prend pas les matériaux. Ce serait la révolution en Suisse de construire des maisons comme on construit en Amérique. Et des gens qui changent de domicile tous les 4-5 ans sans problème, qui achètent et revendent les maisons. Ici, il y a un gros problème de logement, mais on n'a pas de solution pour y faire face. Ailleurs, bon, ils ont l'espace, hein, ils ont ça en plus que nous, on ne peut pas trouver. Mais enfin, il y aura des solutions, des fois.
Les Suisses sont un peu sédentaires, je crois. Ils aiment... Quand ils ont quelque chose à eux, ils aiment bien rester où ils sont. Et puis, changer, ça, c'est trop compliqué, quoi. Il ne faut surtout pas que ce soit compliqué et puis que ça fasse se poser des questions. Je crois que c'est un petit peu la mentalité, quoi. Pas trop réfléchir et puis qu'on soit bien chez soi, mais pas plus loin.
Mais alors, ça conduit à quoi? Ça a une certaine atmosphère
Je crois que ça conduit à ce que les gens sont chez eux et puis qu'ils ne cherchent pas vraiment les contacts, oui. Qu'ils se referment, exactement. Enfermés. Et ce qui fait qu'il y a pas des clans, mais que la Suisse a des coins très, très différents les uns des autres et que les gens ne communiquent pas vraiment entre eux.
Et qu'ils crèvent de solitude.
Ah, aussi, ouais.
Et les médecins savent quelque chose. Alors, entre les médicaments et l'alcool, on se soigne comme ça, au lieu d'être ouvert sur les autres.
Mmh.
Oui, enfin bref, on dresse un portrait. Tout ce qu'il y a de plus noir. Repartons en RDA. C'est quand même drôle que la RDA nous fasse dresser ce portrait-là de la Suisse. Et la RDA est différente. Moi, je croyais que vous alliez me tracer un portrait déprimant de la RDA,
oh,
je
non,
pense.
Non,
non. Non. Alors, faites-moi le portrait de la RDA maintenant, j'écoute.
Oh, portrait robot de la RDA. Moi, je dirais mes impressions. La RDA, pour moi, c'est un camp, d'abord. C'est pas un pays. Donc, c'est plein de gens que j'ai rencontrés. Des gens de DDR, mais aussi des gens d'autres pays. Donc, c'est un peu plus vaste que simplement la RDA.
Il y a une différence, par exemple, entre un jeune hongrois, un jeune bulgare et un jeune de la RDA?
Ah oui, en tout cas, un Polonais a eu des réactions d'étonnement, parce que c'était différent de chez lui. Et puis, en moins bien ou en mieux, ça dépend. Et puis, il a acheté le journal du parti. Et puis, il s'est fait très, très mal recevoir par les gens de DDR du camp. Et il voulait simplement avoir des nouvelles de son pays. Et pas lire le journal en lui-même. Mais alors, les réactions qu'il a soulevées étaient violentes.
Mmh. Alors toi, Brigitte, tu as 18 ans et tu te proposes une année sabbatique. C'est tellement rare. Raconte-moi, comment tu fais pour prendre une année sabbatique en Suisse?
Oh, ben simplement, je décide d'arrêter. Non, c'est pas si simple que ça. Gagner des sous. Caissière. Non, pas caissière. Aide à la coopérative de dépannage, c'est-à-dire oui. Garnir les rayons, trimballer des... C'est sympathique, plateau. Qui,
ça te prépare à entrer dans ton kibbutz, parce que là aussi, ça va être un travail musculaire.
Ah, tout à fait, tout à hein? fait.
Un an dans un kibbutz, tu es juive?
Non, absolument
non.
pas.
Tu es à la paroisse protestante de la Sala, et tu vas dans un kibbutz. Quelle est la motivation?
Le kibbutz lui-même, parce que c'est le seul kibbutz chrétien de tout Israël. Ils ont une démarche un peu particulière. Ils ont envie de rapprocher les chrétiens et les juifs après ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Ils estiment que on peut un petit peu améliorer le dialogue et puis voir que la seule attitude pour quelqu'un qui se dit chrétien, c'est pas seulement convertir les juifs. peut peut-être trouver une autre solution. Et puis alors ça, moi, je trouve super. Puis
tu la vois comment, toi, la solution?
La solution, c'est un bien grand mot. Mais essayer de voir ce qu'ils ont d'intéressant, parce que je suis sûre qu'ils ont plein de choses bien. Et puis, essayer de les connaître. Et puis...
puis de montrer ce qu'on peut être soi-même.
Tout à fait, oui. Tout à fait.
Tu es déjà allé en Israël?
Non, jamais.
Non. En tant que jeune issu d'une paroisse protestante, vous avez déjà une certaine pratique de l'échange. Enfin, j'entends, vous en entendez beaucoup parler, aller vers les autres, le partage. Est-ce que vous éprouvez des difficultés à entrer en contact quand vous êtes face à des jeunes étrangers que vous n'avez jamais vus? Ou bien si le fait qu'on fasse partie d'une paroisse élimine ce genre de trac au moment de rencontrer les autres?
Je pense que ça élimine beaucoup de choses vu qu'on a l'habitude de faire des camps et que dans les camps, c'est justement... on vise à partager plus, à entrer en dialogue. Et puis, on se rencontre aussi chaque semaine. Et un des buts principaux est de pouvoir discuter, se comprendre. Et puis, oui, partager les choses qu'on a vécues. Si on a envie de partager quelque chose avec le groupe, eh bien, on le fait sans problème. Je pense que ça aide à rencontrer après des gens d'autres pays. Et je pense que ça enlève bien des barrières. Mmh.
Donc vous êtes censé avoir plus d'ouverture, moins de préjugés, moins d'occasions de jugement.
C'est le but, oui, d'être chrétien, donc de ne pas partir avec trop d'idées préconçues et puis de réserver son jugement.
C'est quand même une appréhension quand on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment il va réagir. Là, le milieu pouvait favoriser un peu les relations, on pouvait s'attendre à un accueil chaleureux, mais quand même, ça reste difficile pour moi. Et j'ai toujours une appréhension à rencontrer quelqu'un.
Dominique, toi qui vas commencer à l'école, les études sociales.
Alors, moi, je crois que c'est les premiers moments qui sont un peu durs. Pour que ça parte bien, il faut que le début soit bien.
Qu'il y ait
un bon contact, je ne sais pas. Que d'abord, avoir envie d'aller vers la personne. Et puis se pousser quand l'abord de la personne ne nous est pas très sympathique, se pousser à aller quand même.
Ça, c'est le côté chrétien, là.
Ça, c'est peut-être le côté chrétien, ouais. Mais ce n'est pas toujours évident et je ne le fais pas toujours. Et puis, que le premier moment d'échange soit sympathique, quoi. Même si ça porte sur n'importe quoi comme discussion, mais que le premier contact nous donne envie d'aller plus loin.
On en revient aux atomes crochus et la religion n'a pas grand-chose à y faire. C'est chimique.
C'est peut-être chimique, ouais. Mais je crois que le premier pas est important. Puis, en étant chrétien, il y a beaucoup de premiers pas à faire.
Moi, je pense qu'être chrétien, c'est dans les faits beaucoup. Pas seulement avoir le titre de chrétien, mais que ça se voit par ce qu'on dit et par ce qu'on fait. Et que ça change réellement quelque chose d'être chrétien. C'est-à-dire que je pense que c'est plutôt à nous de faire les premiers pas, d'aller vers les gens, d'entrer en dialogue. Je pense que c'est notre rôle.
Vous avez tous des parents qui vous ont entraîné là-dedans ou bien si c'est vous qui avez pris l'initiative par rapport à la famille? C'est la famille qui vous a amené.
C'est la famille qui m'a amené. Famille.
Au début, c'est la famille, mais après, c'est moi
c'est
qui ai continué.
C'est ton choix.
Pour la chrétienté? Ah, c'est la famille.
Pour moi, c'est beaucoup plus personnel.
Moi, c'est aussi la famille.
Je sais que le thème de ce camp, on va pas dire camp de travail, parce que dire je reviens d'un camp de travail, vous avez tous l'air en bonne santé, on va dire un chantier. Hein. Parce que ça fait très goulag, là, camp de travail. Alors, vous revenez d'un chantier en RDA, et le thème, il y a un thème par année. Là, c'était le rêve. Comment vous l'avez interprété, le thème du camp?
Tous les soirs, on reprenait le thème. Il y avait deux animateurs du camp qui suivaient le thème à la lettre, dans notre camp en tout cas. Ils avaient un dossier avec qui allait de Martin Luther King à je ne sais plus qui, mais donc d'autres, des gens qui parlaient de leurs rêves à eux. Il y a eu juste une soirée où chacun exprimait ses rêves. Il y a eu des dossiers présentés. Et donc on en parlait à ces moments-là.
Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vos rêves à vous. Qu'est-ce qu'on entend par rêve? Alors pour toi, puisque tu as commencé, Dominique.
Mes rêves?
Oui, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt du mot projet, parce que ces rêves, c'est autre chose. Hein.
Ben oui, alors... Ah, mes rêves, ce serait... Je sais pas, moi je crois que j'ai des rêves humanitaires.
Oui. Est-ce qu'on sait à 20 ans ce qu'on va faire? Est-ce qu'on en a une conscience assez nette?
Ce qu'on va faire plus tard?
C'est le flou, oui. Vers quoi on va?
Vers quoi on va? Non, moi, c'est assez le flou. Je crois que j'ai beaucoup d'envie. J'ai des rêves au niveau professionnel, au niveau famille, au niveau voyage, bien sûr. Mais je crois que je me laisse aller, quoi. Quand j'ai un rêve que j'ai envie de concrétiser, je me donne les moyens de le faire. Mais j'aime bien me laisser porter aussi quand il y a une occasion qui se présente, le hasard ou je sais quoi. C'est aussi une occasion de concrétiser des rêves parfois.
Comment dit, tu saisiras quand tu reconnaîtras.
Ouais, peut-être.
Isabelle.
Alors nous, on a aussi pas mal parlé du rêve en début de camp et on s'est aperçu que pour eux, la réalité du rêve n'était pas la même que pour nous. C'est-à-dire que, par exemple, si moi j'en ai marre d'habiter en Suisse, je peux toujours voyager, aller voir ailleurs, changer de paysage, de gens, de vie. Tandis que eux, ils n'ont pas cette possibilité-là du voyage, puisque c'est très difficile, voire impossible de partir. Donc, le rêve a une part beaucoup plus importante. On peut se réfugier dans ses rêves, dans sa tête. Et oui, on s'est rendu compte que nous, ce qu'on appelait plus projet, eux, ils l'appelaient rêve.
Ah, voilà pourquoi. Parce que je me disais, ce mot a une curieuse consonance. Ah, donc, ça, tu l'as très bien expliqué. Oui, effectivement, eux n'ont pas toute la latitude que nous avons. C'est pas que nous allons pouvoir le faire, mais en tout cas, nous avons la latitude de penser que c'est possible. Tandis que c'est pas possible.
Et le voyage, pour eux, c'est vraiment la corde sensible. On voyait que, en tout cas moi, le plus grand nombre de questions qu'on m'a posées a été sur les voyages que j'ai faits et que j'aurai l'occasion de faire.
Et tu racontais.
Voilà.
Personne là-bas n'est sorti de ceux que vous avez vus.
De ceux qu'on a vus, il me semble que personne n'est sorti.
Mais dans le camp, il y en avait une fille en tout cas qui était partie à l'ouest, voir une famille. Bon, évidemment, elle a tous les papiers nécessaires, c'était très long. Elle avait pu sortir parce que c'était l'anniversaire de sa grande tante. Mm-hmm. Donc elle avait pu aller la visiter. Ce qu'elle me mentionnait, elle était partie à Francfort. Elle m'avait dit, tu vois, je suis revenue. Comme si ce n'était pas forcément évident. Je crois qu'elle a été contente de s'être fait accueillir par des gens qui lui ont beaucoup parlé et qui ne lui ont pas forcément présenté la ville en lui disant, tu vois, c'est comme ça chez nous. Mm-hmm. Mais des gens qui l'écoutaient, qui ne vantaient pas les mérites du capitalisme.
Alors pour ma part, dans le milieu d'église tel que je l'ai vu, j'ai l'impression que de manière générale, ils sont plus forts que nous. Ça n'est pas nécessairement évident pour eux de faire partie de l'église, et je crois qu'à ce niveau-là, ils sont beaucoup plus engagés.
Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de pouvoir protester sous le couvert de l'église qui leur assure une certaine...
Une manière de protester, je n'ai pas l'impression. Peut-être, par contre, une manière de pouvoir plus discuter, de pouvoir plus débattre des choses, se rendre compte de certains faits.
Je pense que c'est sûr que l'Ouest a une certaine une force indéniable. Tout ce qu'on a au niveau justement matériel, musique, mode, et ça, je crois que ça a une force indéniable sur les jeunes. Maintenant, nous qui y sommes, on a des critiques face à ça. On sait qu'il y a, c'est pas tout blanc. Et je pense que eux qui en ont que des bribes ne savent pas forcément les côtés négatifs que ça peut avoir.
Pas sûr, Isabelle. Parce que c'est justement ce qui nous reproche. Mais je crois que la théorie officielle les y aide bien. C'est de dire, oui, mais voyez, c'est dévoyé là-bas, la drogue, les crimes. Enfin, voilà où ça mène le matérialisme, dans les grandes lignes. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas des questions à ce sujet? Ils ont été surpris de vous voir, jeunes chrétiens, engagés, sérieux, etc.
Bon, faut pas oublier qu'il y a les informations de l'État et puis aussi tout ce qui se dit de bouche à oreille et qui joue aussi un grand rôle.
Et informé par quel moyen, de bouche à oreille? À quelle source? Vous êtes demandé où ils puisaient leurs informations?
Bah, souvent, ils ont une correspondance avec... je ne sais pas, les familles souvent étaient séparées.
Séparées,
oui.
Que
ils ont une correspondance avec des gens qui sont de l'autre côté.
Ils entretiennent des relations avec les autres familles à l'Ouest?
Je crois qu'il y a beaucoup. Mon frère avait fait un séjour à Berlin et il a gardé un contact avec quelqu'un de l'Est et régulièrement, ils ont une correspondance. Donc, je crois qu'ils sont très attachés à ça, de pouvoir savoir ce qui se passe et par une autre source, peut-être une source plus fidèle.
Vous allez correspondre avec certains jeunes avec lesquels vous êtes entré en contact?
J'ai très envie de correspondre parce que ça a été dur de les quitter. Et puis, au niveau affectif, j'ai très envie de garder le contact.
Tu t'es fait des amitiés solides?
Je ne sais pas si elles sont solides, mais je n'ai pas envie de les casser.
Moi, j'ai reçu une lettre aujourd'hui, donc c'est que les ponts ne sont pas coupés.
Formidable, et qu'est-ce qu'on te dit? Enfin, je ne veux pas être indiscrète.
Alors, on me dit... Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle me parle surtout qu'elle s'est beaucoup inquiétée de savoir comment on avait voyagé. Et puis, elle me parle de ce qu'elle a appris de son travail. Et puis qu'elle compare ses nouvelles collègues avec nous. Puis qu'évidemment, elle regrette l'ambiance du camp. Parce qu'on a vécu un camp effectivement assez fort, je crois. Et qu'on a tissé beaucoup de liens. Et qu'elle aussi, toute la semaine, elle a pensé, tiens, il y a une semaine, on y était encore, ah, puis on jouait à ça, on jouait au Mex le soir, ou à la Scopa.
Qu'est-ce que c'est ça?
C'est des jeux de cartes, mais des jeux de cartes pas du tout comme le Yas, donc pas avec des...
Avec je ne suis pas très joueuse, alors tu peux
m'expliquer. Mais ça, c'est des jeux vraiment très simples. Mex, c'est un jeu avec 2 dés, c'est un jeu de bluff, donc c'est très drôle. Ça, on se jouait à 10 autour d'une table. Ça joue très bien, aussi bien en allemand qu'en français, effectivement.
On lance les dés.
Les dés sont sous un gobelet qui est posé sur un livre. On soulève les dés. Et puis, les chiffres vont de 31 à 21, qui est le mex, effectivement. Et on bluffe, on passe au suivant. Soit on lui dit la vérité, soit on ne lui dit pas la vérité. Et soit il soulève, soit il soulève pas. Il y a une question de points et ça peut aller très loin. Certains se ramassent 2 points et tout est dans les regards, la façon de dire,
l'attitude
absolument. Il y a des jeux terribles. Il y a certaines personnes à côté desquelles il faut surtout pas s'asseoir parce qu'ils sont infaillibles. On croit toujours qu'ils ne montent. On croit qu'ils ne montent jamais alors que
L'art de mentir. À quoi s'amusent les jeunes paroissiens? Est-ce que tu as l'impression qu'elle pourrait dire ici ça va pas trop bien en ce moment, il y a des problèmes? Non.
Alors, on lui avait demandé avant de partir qu'est-ce qu'on peut écrire. Oui. Parce qu'elle elle fait un métier, elle est institutrice, effectivement, elle ne peut pas dire qu'elle appartient à l'église dans son milieu. Donc, on lui disait, mais est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut te parler de notre activité de paroisse? Parce que, est-ce que tu vas pas avoir des problèmes? Elle nous disait que les gens qui ouvraient les lettres savaient très bien ce qu'il en était pour elle. Savaient qu'elle appartenait à tel milieu.
Mais il suffit que ce soit pas trop officialisé, c'est ça?
Oui.
Ouais.
Alors...
Il y a une forme de liberté, disons, sous le manteau, si je peux dire.
C'est un peu ça, quoi. En tout cas, elle nous disait, vous pouvez m'écrire ce que vous voulez.
Faites-le, mais écrivez-le pas sur les toits.
Ouais, c'est un peu ça. Personne ne savait qu'elle était au camp, par exemple, qu'elle faisait un camp chrétien. Mais elle y était quand même.
Voilà. Enfin, personne, sauf ceux qui sont censés le savoir.
Tout à fait.
Bon, enfin, vous pouvez trouver des codes en parlant.
Ah ouais, simplement qu'en allemand, c'est pas forcément évident. On lui a refilé un dictionnaire français, français-allemand, pour qu'elle puisse nous écrire quelques mots en français, mais... Elle n'est pas encore très définie. Oui, on en a offert 2. Alors voilà. C'est ce qui ne se trouve pas dans les librairies. Il y a français, non, il y a allemand, russe, allemand, bulgare, tout ce que vous voulez. Mais alors français, allemand, introuvable.
Hein, je retiens.
Pas ça, de c'est les bons cadeaux à apporter.
Voilà. Pas de dictionnaire franco-allemand.
Non.
En RDA. Peut-être que les jeunes vont réussir là où leurs aînés ont échoué. Dans la spontanéité des contacts, avec moins de préjugés. La guerre, ça ne vous dit plus rien. Enfin, ça ne vous a jamais rien dit. Quoi. Hein?
On n'en a pas parlé.
Vous êtes né en quelle année?
Oh. 70.
69.
68.
Mon Dieu, qu'ils sont récents.
Ils ne
sont pas encore usés. C'est merveilleux. Ça ne vous dit rien du tout. C'est vraiment vieux truc, la guerre 39-45. Vous avez entendu parler?
C'est vieux, mais alors on nous en parle tout le temps, mais on n'a jamais vu.
La mob, ça vous dit quelque chose?
Oui, ça nous dit beaucoup de choses, mais... Ça n'évoque pas grand-chose personnellement. C'est pas concret, quoi.
Vos parents vous en parlent?
Oui, mon père m'en parle un peu parce qu'il connaissait descendre à la cave quand il y avait l'alarme.
Voilà.
Ces choses-là. Et puis, c'était bien la cave parce qu'il y avait des fauteuils, on jouait, on était tout l'immeuble dans la cave.
Il y a des gens qui ont même pris du plaisir pour la guerre. Et il y en a même beaucoup. Il y en a même qui la regrettent. Alors, RDA contact. Tu es resté en contact, Alain?
Alors, tout à fait. Bon, ça fait une semaine que j'essaie d'écrire une lettre. Il y a des problèmes de traduction, il me faut du temps pour le faire. Mais oui, c'est des contacts que je n'ai pas du tout envie de perdre. Il a été prévu qu'on retourne, Dominique et moi, au début janvier à Berlin. Il se fait une rencontre de tous les participants des camps de cette année.
De quel côté?
À l'est. Ça se fait sur un week-end, alors on va passer autant de temps en voyage que sur place.
Je pourrais pas venir à titre d'animateur aumônière, animatrice aumônière.
En plus. Hein.
Ah, ce serait tout à fait possible.
Et ça ferait une bonne émission. Hein,
ah oui.
On enfin, il faudrait un traducteur en traduction simultanée, par exemple, pour les nécessités radiophoniques. Fantastique. Ah, moi je dis oui, invitez-moi, je viens. Je dis toujours oui, moi, je parle de toutes les aventures. Et Brigitte, tu écris ?
Maintenant, non. J'attends plutôt une lettre.
Voilà.
Ou plusieurs, j'en sais rien, mais je pense
que. Toi, tu prends pas les devants, tu réponds.
Ah oui, j'estime que j'ai assez donné, j'attends.
Ça, c'est pas très chrétien, j'ai assez donné. Elle calcule ses dons maintenant. Nous voilà bien. Vous aimeriez ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, parce que l'heure tourne, et peut-être que je n'ai pas pensé à poser la question, ou la bonne question.
Qu'on a eu de la peine à revenir, je crois que c'est un point important.
Oui, je m'en aperçois, et c'est tout à fait surprenant. C'est même, je trouve ça encourageant.
Absolument.
Il y a tellement de gens qui font la grise mine quand on leur dit « Est-ce que vous iriez en vacances à l'Est ?»
Non, c'est vrai, ça, il faut prévoir.
Parce qu'ils sont rebutés par un certain nombre de choses.
C'est vrai que c'est un truc qu'on peut prévoir, un but de voyage qu'on peut tout à fait prévoir, comme je disais, l'Espagne. On peut très bien aller en RDA comme en Espagne, finalement. Bon, peut-être avancement plus de préparatifs, mais sur place, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et puis, beaucoup de préjugés à démolir, surtout.
Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça en vaut vraiment la peine. Et puis qu'à aucun moment, on a regretté d'avoir participé à ce camp, d'avoir fait l'effort de la langue et tout. Je crois que ça va rester un instant fort dans nos vies. Mmh. Et puis qu'on a vraiment envie d'en faire quelque chose de concret ici. Et puis de garder les contacts là-bas.
Je vous ai demandé si c'était votre premier voyage à l'Est, mais j'aimerais vous demander, est-ce que c'était votre premier séjour à l'étranger ou vous êtes déjà allé à l'étranger ?
Je suis déjà allé à l'étranger plusieurs fois.
Énumérez les endroits.
Alors, le point le plus important, j'ai fait un autre camp de travail au Burkina Faso, il y a 3 ans. Autrement, j'ai voyagé en Europe, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et le Nord.
Ouais, j'ai aussi fait la France, la Hollande, l'Espagne, un petit bout, et puis pas tellement autrement.
Vous n'êtes pas comme le gars qui me disait « Oui, le Canada, je connais, j'ai passé 3 jours à Montréal ».
Non, non, je pourrais peut-être dire ça. Non, c'est vrai que j'ai fait un saut sur l'océan, un petit saut de puce. J'ai été à Montréal, en effet.
3 jours.
J'ai été, non, 2 semaines quand même.
Mais tu ne prétends pas connaître le Canada pour autant.
Non, pas le Canada, non, c'est
voilà.
Clair.
Non, vous avez assez roulé vos bosses.
Moi, j'ai été 4 ans et demi en Algérie, ensuite 1 an et demi en Équateur, puis de nouveau 6 mois, il y a 6 mois. Autrement, j'ai été en France, en Belgique, un peu dans l'Europe. J'ai aussi fait le même camp qu'Alain au Burkina Faso, 3 semaines. Et puis, oui, j'adore ça, c'est un virus.
La famille est ouverte au départ
Ah oui, c'est grâce à eux qu'on est parti à cause du métier de mon père, que toute petite déjà, on était sur les routes.
Très bien.
Moi, j'ai été qu'en France parce que j'ai une famille plutôt sédentaire qui a un chalet à la montagne, donc on restait en Valais. Donc c'était mon premier voyage, vraiment.
J'ai pas été bien loin, mais en Angleterre quand même, j'ai un père qui adore l'aviation et qui s'est fait un avion. Puis comme on a de la vague, famille là-bas.
Il s'est fait un avion.
Il s'est fait un avion. Alors, il m'a dit...
T'as pas peur ?
Ah non.
Il y en a tellement qui tombent ces jours.
Ben non,
ah
justement.
Bon.
Ma mère se fait assez de soucis
la
pour moi.
La colle tient bien
que...
Ah bon ?
Oui, la colle tient bien. Il n'y a pas de colle, c'est pour ça que ça tient bien. Et puis autrement, la France, l'Italie, mais c'est tout.
Plus rien sur la RDA ?
Qu'il faut aller voir par soi-même, puis se faire sa propre idée. Et
vous n'avez pas dit un mot sur le mur. C'est quand même quelque chose d'invraisemblable, ce mur.
Si. On s'était préparé, mais c'est vrai que de le voir des deux côtés, c'est très impressionnant. Puis en partant, de voir que nous, on le traverse comme ça, puis qu'eux, ils restent de l'autre côté. Ça, c'était dur.
Mais c'est vrai que
c'est absurde.
C'est franchement, c'est bête, c'est complètement stupide. On n'a pas eu l'impression d'être de l'autre côté d'un mur, quoi, en étant là-bas.
Mais il y a le mur.
Ouais, le mur, on l'a passé, on sent, je veux dire, toute cette présence, le policier ou comme ça, on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un barrage entre les deux. Et puis, une fois de l'autre côté, ben, on n'a pas l'impression que le barrage est très utile, quoi.
Non, il n'a pas de raison d'être.
Ouais. Quand on connaît les gens de là-bas, le mur n'a plus sa raison d'être.
Pour moi, le mur, c'est à la fois le mur physique, qui est la frontière, mais je crois qu'on oublie trop souvent le mur qu'on a dans nos têtes. Et je crois qu'on a une certaine part de responsabilité aussi dans ce mur-là.
Mmh. C'est pour ça que je disais démolir le mur de l'intérieur, à l'intérieur de soi. Mais vous pensez qu'à brève échéance, on va en voir le bout, qu'il va être démoli?
Je crois que je suis un optimiste de nature. Mais je crois aussi que tant que nous, on ne fera pas l'effort de le démolir dans nos têtes, il aura beaucoup de peine à être démoli, effectivement.
Et la conclusion, après avoir écouté les jeunes avec le pasteur de la paroisse de La Sala, donc l'animateur de ce groupe de jeunes que nous avons entendu, de retour de RDA, donc d'un camp de travail, enfin j'aime mieux chantier. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de leurs propos? Alors, est-ce que ça correspond à ce que vous avez vécu avec eux?
Tout à fait. Et ce que j'entendais de votre échange m'a fait